Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous Fasse. Bien évidemment, une dépression, un trouble anxieux se soigne avec des médicaments, une thérapie, mais il est également possible d'améliorer l'efficacité d'un traitement en adoptant une alimentation spécifique. De plus en plus d'études scientifiques montrent qu'il existe un lien entre notre régime alimentaire et notre santé mentale. Une nutrition adaptée permettrait également de prévenir certains troubles de l'humeur. Vous verrez ce matin quelle est l'influence de la santé du microbiote intestinal sur notre cerveau, pourquoi un déséquilibre de cette flore, une inflammation chronique, peuvent faire le lit d'un moral en berne. Vous découvrirez ce matin quel est le régime alimentaire qui peut contribuer à notre équilibre émotionnel, pourquoi une alimentation ultra transformée, trop sucrée, saturée en mauvaise graisse, assaisonnée d'additifs est délétère pour notre bien-être. Le chercheur Guillaume Font et la médecin nutritionniste Catherine Lacronière répondent ce matin à toutes vos questions. Dites-nous si vous avez constaté une influence de votre alimentation sur votre humeur au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli et le site de France Inter. Bonjour Marie-Laure Sonnenschein.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femme Actuelle, vous avez une mine absolument merveilleuse. Vous nous révélerez le secret de votre éternelle bonne humeur.
Hein. Oh là. En tout cas, au menu, un peu moins de pommes, de raisins, de chocolat comme Laetitia, un peu plus d'ail, d'asperges et d'artichauts. Alors de quoi ravir mon intestin, un peu moins mes papilles quand même. Hein.
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Alias Maître Yoda dans notre équipe. Quel est le menu de vos choses vues vers 11h20?
Eh bien, je parlerai d'une branche méconnue de la littérature, celle qui évoque nos tripes et nos boyaux. Et je serai assisté dans cette ambitieuse entreprise par Serge Gainsbourg, Michel de Montaigne et les sept nains de Blanche-Neige.
Ça promet. Bienvenue dans Grand Main vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous Fasse.
Dans des moments pareils, poursuivre sa vie semble impossible. Et engloutir tout le contenu de son frigo semble inévitable. J'ai deux solutions. Renoncer et accepter ma condition de vieille fille à perpétuité pour finir dévorée par des bergers allemands. Ou non. 5 semaines plus tard. Poids, 2000 kilos. Vie très belle histoire avec deux hommes en parallèle. Le premier s'appelle Ben, le deuxième s'appelle Jerry's. Nombre de Jules actuel, 0.
Et pas sûr que l'alimentation de Bridget Jones soit idéale pour recouvrer le moral. Bonjour docteur Guillaume Font.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin psychiatre aux hôpitaux universitaires de Marseille. Vous êtes enseignant-chercheur à la faculté de médecine de la Timone. L'un des grands spécialistes du lien entre le microbiote intestinal et notre cerveau. Vous publiez chez Odile Jacob un livre absolument passionnant. Bien manger pour ne plus déprimer, sous-titré Prendre soin de son intestin pour prendre soin de son cerveau. Bonjour docteur Catherine Lacronière.
Bonjour Ali.
Habituée de cette émission, médecin nutritionniste. Vous avez notamment travaillé dans un centre de recherche de l'université Tufts près de Boston et vous avez publié « Prévenir et soigner l'inflammation » chez Hugo Poche. Première question, Guillaume Font, comme Bridget Jones, pourquoi aimons-nous nous jeter sur une alimentation grasse et sucrée en cas de morale en berne? C'est un réconfort certes, mais passager.
Alors oui, mauvais choix, hein, la nourriture émotionnelle, quand on se console avec de la nourriture, ça démarre mal en fait.
Pourquoi on se jette plutôt sur ça que sur les brocolis?
Alors effectivement, bah, déjà parce qu'on ne fait pas toujours ce qui est bon pour nous en fait, hein, c'est valable pour des consommations comme l'alcool, comme le tabac, donc il y a des choses qui nous font plaisir sur le moment mais qui sont nocives à terme. Et puis en fait, il y a un système de récompense basé sur le sucre, parce que c'est beaucoup le sucre hein, qui est invoqué dans la dépression notamment, et surtout en fin de journée. Donc nous, on a beaucoup de patientes, parce que c'est plutôt des femmes qui sont concernées, qui nous rapportent avoir une appétence très forte pour les produits sucrés, d'où l'histoire du chocolat, parce que j'anticipe tout de suite la question du chocolat antidépresseur. Le chocolat, en fait, il faut regarder les différents types de chocolat, parce qu'il y a chocolat et chocolat, et certains sont très très sucrés, et ça va faire un cercle vicieux, stockage de graisse, inflammation, et donc on va devoir consommer plus de sucre, parce que le corps va en demander de plus en plus, et donc c'est Bridget Jones à la fin.
On reviendra sur cette question essentielle de l'inflammation. Docteur Catherine Lacronière, sur cette alimentation émotionnelle.
Oui, tout à fait. On comble un vide, en fait, avec des choses qui nous satisfont sur le moment, du sucre et du chocolat. Et c'est vrai que le problème du chocolat, vers qui on est atterri, bien sûr, parce que certains contiennent du sucre, mais il y a également du magnésium. Et le magnésium, eh bien, ça relaxe, ça agit sur le muscle lisse. Ce qu'on oublie, c'est que ce soit du chocolat noir ou du chocolat au lait, eh bien, on est au-delà de 500 calories pour 100 grammes. Donc, ça va très vite à la plaquette.
Question de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
Alors, ok, je range ma tablette de chocolat. Bon, vraiment, c'est parce que vous insistez, mais alors, je la remplace par quoi? Voilà, on parlait tout à l'heure des aliments, enfin j'évoquais les artichauts, donc les aliments riches en prébiotiques, donc artichauts, oignons. Que suggérez-vous pour retrouver un état plus calme et puis passer un bon moment quand même? Écoutez, franchement.
Qu'est-ce que vous conseillez quand on est dans le cas de Bridget Jones, plutôt que de se jeter sur la crème glacée ou le chocolat? Qu'est-ce que vous conseillez?
Alors,
dans ces cas-là?
Ça va être difficile de répondre en une phrase parce que j'ai écrit un livre entier là-dessus, en fait, qui s'appelle Je fais de ma vie un grand projet, que je vous recommande, où justement c'est comment je fais pour faire face aux émotions désagréables. En fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Alors, on peut citer en vrac, hein, la pleine conscience, des thérapies aussi, parce que souvent c'est des réactivations de choses du passé en fait qui sont très douloureuses, et donc en fait on essaye de les combler par en se remplissant de molécules, hein, diverses et variées. Et donc, en se divertissant, en se remplissant la tête d'autres choses. Et donc, souvent, c'est parce qu'on ne veut pas faire face à certaines émotions que, voilà, qu'on veut absolument bloquer. Donc, c'est là que tout se joue. Donc, c'est, voilà, une question assez complexe et difficile à répondre comme ça en quelques minutes.
Alors, oui, c'est vrai. Donc, il faut essayer, puisqu'on sait que, on va en parler, que ce sont les fruits et légumes et une alimentation riche en antioxydants, en fibres et autres qui va améliorer l'humeur. Et bien, à cette saison, je proposerai des fruits rouges qu'on va picorer, des fraises, des framboises, des myrtilles, et puis commencer aussi par vider ses placards, vider son frigidaire de ce qui peut être dangereux pour avoir des bonnes choses. Ça, on réfléchit moins.
Je complète en disant justement qu'il est démontré maintenant tout à fait que la consommation de fruits et légumes protège de la dépression. Donc c'est pas forcément ce sur quoi on a l'habitude en fait de se replier quand on est en détresse, mais déjà de le faire de façon quotidienne, de construire des habitudes autour de ça, sur des fruits de saison et des légumes de saison, ça a été démontré scientifiquement que ça protège du risque de dépression.
Docteur Guillaume Font, avant de nous expliquer en détail l'influence de l'inflammation sur notre humeur, pourquoi une alimentation riche en acides gras saturés, en sucre raffiné, favorise l'inflammation de l'organisme ?
Donc en fait, ça va créer du stockage de graisse, une graisse très inflammatoire autour des viscères. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais la sugar belly, la ceinture de sucre. Et donc ça va créer un cercle vicieux hormonal en fait qui vont libérer des facteurs dans le sang qui vont diminuer la motivation, le plaisir aussi, la concentration, perturber le sommeil. Et donc ça va créer un cercle vicieux. J'insiste autour des produits ultra transformés, parce qu'il a même été démontré qu'à calories égales, les produits ultra transformés font prendre plus de poids.
Alors j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est la psychonutrition dont vous êtes l'un des principaux porte-étendards en France. Il y a une quinzaine d'années, quand vous commencez à travailler sur les liens entre le microbiote intestinal et la santé mentale, certains de vos collègues se moquent un peu de vous. Enfin un peu, c'est un euphémisme.
Les choses
ont changé 15 ans plus tard, mais il y a 15 ans...
Mais c'était pas que pour la psychonutrition, parce que Christophe André, je pense, le confirmera, la méditation, en fait, a été malmenée au début des années 2000, et puis dès que les preuves scientifiques sont arrivées de son efficacité, maintenant tous les hôpitaux proposent des thérapies basées sur la méditation de pleine conscience, et c'est la même chose pour la psychonutrition.
C'est quoi exactement?
Ça paraissait, donc la psychonutrition, c'est l'influence de l'alimentation sur la santé mentale. Donc ça peut concerner la dépression, l'anxiété, mais aussi les troubles psychotiques. Donc en fait, on prend conscience un peu tardivement que notre cerveau n'est pas coupé du reste du corps. C'est-à-dire qu'on se concentrait dans les années 70 sur des neurotransmetteurs. Ça nous a permis de développer des molécules très efficaces, comme les antidépresseurs. Mais on a oublié en fait que ce cerveau, il a un métabolisme et qu'il va être impacté par ce qui se passe dans le reste du corps. Maintenant, on sait par exemple que la perméabilité au niveau de l'intestin va influencer la perméabilité au niveau de la membrane du cerveau. Et donc, on reprend conscience que le cerveau est un organe parmi les autres et qui fonctionne avec l'ensemble du reste du corps.
Docteur Lacronière.
Et avec le deuxième cerveau, hein, c'est-à-dire l'intestin. Et c'est pourquoi le microbiote est si important. Le microbiote, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Et bien la nourrir, ça permet de l'équilibrer. Parce qu'on sait que la dysbiose, donc le déséquilibre de la flore intestinale, du microbiote, favorise l'inflammation chronique. Et cette inflammation chronique, elle est également présente au niveau du cerveau pour favoriser toutes les pathologies neurodégénératives. Dégénératif, mais également favoriser la dépression.
Et le microbiote intestinal, c'est cet ensemble d'un kilo de bactéries, un kilo et demi, et d'autres germes qui tapissent notre intestin. Rappelez-nous la fonction de ce microbiote intestinal.
Alors, il y a plusieurs fonctions, en fait. Il y a des fonctions immunitaires, des fonctions de défense, des fonctions qui nous aident à digérer les aliments, et puis des fonctions de synthèse de certaines molécules, les acides gras à courte chaîne, en fait, qui servent au neurodéveloppement, donc chez les petits-enfants notamment, qui vont avoir un impact très important sur le développement du cerveau. Et puis la protection de la barrière, hein, c'est la première chose que rencontrent les aliments. Les aliments, ils peuvent être chargés en substances infectieuses, et donc le microbiote nous aide à nous défendre aussi. Ça, on l'oublie souvent, qu'il y a des bonnes bactéries qui nous aident à défendre notre intestin.
Quelles sont les interactions entre notre microbiote intestinal et le cerveau ? Ça se passe comment ? Par quelle voie anatomique communiquent ces deux cerveaux ?
Alors, on avait parlé dans une précédente émission du nerf vague, hein, ce nerf qui relie l'intestin au cerveau, le plus long nerf de l'organisme. 80% des informations vont de l'intestin vers le cerveau. Ça, c'est la voie anatomique. Et puis, il y a toutes les voies immunitaires, en fait, hein, qui passent donc par le sang. Et donc, des perturbations au niveau de l'intestin vont se traduire par des perturbations dans tous les organes du corps.
Alors, depuis que vous travaillez sur les liens entre l'intestin et le cerveau, vous recevez énormément de questions. Par exemple, s'il existe un lien entre une dépression et un syndrome de l'intestin irritable, mon enfant est hyperactif, y a-t-il un lien avec l'inflammation ? De plus en plus de patients viennent vous voir avec ces problématiques en tête du lien entre le cerveau et le microbiote intestinal.
Tout à fait, c'est des questions qui nous sont posées de plus en plus fréquemment dans les services de consultation. Donc moi, je dirige 2 centres experts en fait, et donc les patients me sont adressés par leur psychiatre traitant, ce qui permet aussi de diffuser les connaissances, parce que souvent la demande vient des patients et les psychiatres ne sont pas informés en fait de ces découvertes scientifiques. Donc il peut y avoir soit du scepticisme, soit de la curiosité. Majoritairement c'est de la curiosité plutôt, mais parfois certains sont quand même un peu sceptiques en pensant que c'est un effet de mode et parce qu'ils ne connaissent pas la littérature scientifique.
Le regard du vénérable Christophe André.
Oui. Moi je trouve ça vraiment passionnant ce qui est en train de se passer au niveau de la psychonutrition et d'ailleurs d'autres branches de la médecine. C'est-à-dire on comprend que l'être humain ne peut pas, on ne peut pas concevoir la santé de l'humain en autonomie complète. L'être humain est en interaction constante avec son environnement. Il y a l'alimentation, évidemment, parce que l'alimentation, c'est l'environnement qui rentre dans notre corps très profondément et qui va impacter notre santé. Il y a l'interdépendance des organes entre eux, le cerveau et le tube digestif, pour le sujet qu'on aborde aujourd'hui, mais en réalité, tous les organes sont interconnectés. C'est vrai qu'on a fait une médecine qui était en silo, comme disent les économistes, et on s'intéressait à fond à un organe isolé, à une personne isolée, en négligeant tous ces liens complexes, parce que c'était compliqué, parce que on avait une espèce d'illusion de toute puissance, comme ça, que si on maîtrisait les neurotransmetteurs, alors on maîtrisait le cerveau, alors on maîtrisait l'équilibre psychologique. Eh bien non, l'humain n'est pas isolé de son environnement, le cerveau n'est pas isolé par rapport à l'alimentation, et ça, c'est vraiment une médecine intelligente, une médecine d'avenir qui est en train de se construire.
Ce qui est très frappant, c'est de constater que l'effondrement de la biodiversité dans l'environnement se traduit aussi par l'effondrement de la biodiversité dans notre microbiote. Et qu'on pense qu'il y a des maladies de la civilisation, comme le diabète, le cancer et la dépression, qui sont liées aussi à une raréfaction de certaines bactéries dans notre microbiote intestinal, qui pourraient provenir directement de la raréfaction dans l'environnement de produits alimentaires de bonne qualité avec des sources diversifiées.
Docteur Lacronière.
Oui, des bactéries qu'on nourrit plus correctement parce qu'on se nourrit de plus en plus d'aliments transformés, ultra transformés, qui sont vides en nutriments essentiels et riche par contre en graisse, en sucre.
Et en additifs.
Et en additifs, voilà. Et tout ça est souvent très caché. Hein. Graisse et sucre sont cachés, il faut apprendre à lire les étiquettes.
Oui, je rappelle qu'il y a 2 édulcorants qui ont été montrés comme cancérigènes dans une étude récente, l'étude Nutrinet qui a été publiée en mars. Donc voilà, il faut faire vraiment très attention aux additifs aussi.
Marie-Laure Zonchaine, Femme Actuelle.
Oui, vous parliez, Guillaume Font, de l'environnement concernant l'intestin du nouveau-né. Alors, mythe ou réalité, mais j'ai l'impression que de plus en plus de parents expliquent que leur enfant souffre d'intolérance au lait maternisé. Il y a énormément de lait qui n'existait pas il y a encore une trentaine d'années. Comment expliquer ce phénomène qui a l'air vraiment de se développer, de la souffrance tout de suite du nouveau-né concernant sa digestion et son irritabilité finalement ?
Alors en fait, il y a plusieurs hypothèses basées autour de l'immunité. Alors, il y a eu l'hypothèse hygiéniste, c'est-à-dire qu'en fait, en supprimant les agents infectieux de l'environnement, c'est-à-dire en nettoyant les sols, en diminuant finalement les microbes, en fait, on permet pas au système immunitaire de l'enfant de se développer comme avant. Et du coup, il va pouvoir potentiellement développer plus d'allergies. C'est une hypothèse qui est très difficile à démontrer. Concernant les laits maternisés, c'est plus une histoire en fait d'intolérance alimentaire au sens général, qui a effectivement, donc c'est cette histoire d'allergie potentielle hein, qui pourrait se développer plus dans notre société parce que nos modes de vie finalement ne nous exposent plus de la même façon aux agents infectieux. Ensuite, donc il y a la question du lait maternel versus le lait de maternisé. Et ça, il y a un débat autour de ça, mais il y a quand même le fait que le lait maternel contient des agents immunitaires, enfin des immunoglobulines qui protègent mieux l'enfant. Et là, il y a actuellement, donc je suis en train de travailler en collaboration avec une équipe coréenne qui est en train de démontrer que les enfants qui ont un lait maternel exclusif pendant les 6 premiers mois développent moins de troubles infectieux sur les 10 premières années de la vie, donc ça peut aller très loin. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, parce que d'un point de vue sociétal, c'est très compliqué pour les mères, donc ça c'est un sujet qui est vraiment douloureux en fait pour beaucoup de personnes.
Guillaume Font, dans votre livre, vous présentez l'état actuel des connaissances en la matière. Précisons ce matin qu'en aucun cas vous ne préconisez d'abandonner des traitements dits conventionnels comme les antidépresseurs, les anxiolytiques, les psychothérapies, contrairement à des gourous dangereux du bien-être qui sévissent et qui peuvent être signalés à la Miviludes qui lutte contre les dérives sectaires. Soyons vraiment très précis sur ce point-là.
Alors pour être très précis, je dirais il ne faut pas abandonner les antidépresseurs. Par contre, les anxiolytiques, si on peut les diminuer, c'est pas plus mal. Parce qu'en fait, c'est des médicaments qui posent d'autres problèmes en fait, avec des addictions, des tolérances. Et donc, si on peut apprendre à gérer l'anxiété ponctuellement, autrement qu'avec les anxiolytiques, ça peut être utile. Par contre, les antidépresseurs soignent énormément de dépression. Et ce qui est très intéressant, ce que j'explique dans le livre, c'est que quand on étudie les combinaisons, en fait, les deux ensemble avec les oméga 3, par exemple, qui sont efficaces dans la dépression, la combinaison antidépresseur oméga 3 est plus efficace que chacune des deux séparément.
Catherine Lecronnier.
Oui, extraordinaire. Oméga 3, ces acides gras essentiels qui, en effet, ont un rôle pour prévenir, en tout cas, la dépression, pour guérir. Les études ne sont pas encore toutes d'accord. Et puis, il faut parler dose aussi, hein, parce que là, on parle d'oméga 3 en complément. Dans l'alimentation, en général, on en a 250 mg par jour.
On les retrouve dans les poissons gras, dans les graines de lin,
oui,
etc.
Oui, exactement. Mais là, on peut avoir un autre souci, parce que ces poissons gras, ils peuvent nager dans des eaux qui sont contaminées. Et aujourd'hui, malheureusement, les recommandations de l'ANSES, ce sont de consommer des poissons deux fois par semaine, un blanc et un gras. Et on va pas arriver à nos apports en oméga 3 avec ça.
Dans quelques instants, nous verrons pourquoi les fibres peuvent jouer un rôle sur notre humeur. À 10h24, ce sera juste après Nino Ferrer qui plaît tant notre maître Yoda, Christophe André.
Oh, hey, hein, bon. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lorgnon, étui d'accordéon. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon. Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma pipe et mon parapluie, ma belle-sœur, mon tambour et ma tante de Saint-Flour. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon. Où est mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi.
Christophe André a eu son Nino Ferrer, il est tout content. Hein.
Merveilleux.
Oh et un bon.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi sur France Inter.
Comment un certain type d'alimentation peut contribuer à notre bonne humeur? C'est notre programme ce matin. Questions et témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Avec nous, le docteur Guillaume Font, qui publie Bien manger pour ne plus déprimer, et le docteur Catherine Lacronière, médecin nutritionniste. Alors, on a évoqué le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal synthétise beaucoup d'hormones et de neurotransmetteurs, comme la sérotonine. C'est pas seulement le titre d'un roman de Michel Houellebecq. Quel est le rôle exact, docteur Font, de la sérotonine dans certains troubles de l'humeur? Et qu'est-ce qui perturbe, deuxième question, la production de sérotonine dans le microbiote intestinal?
Alors ça, c'est une question pour un cours d'une heure et demie pour les étudiants en médecine. Donc la sérotonine, pour faire court, donc on l'appelle l'hormone du bonheur. Bon, c'est très raccourci, hein, elle ne fait pas que ça. C'est une molécule qui s'effondre dans beaucoup de dépressions, mais pas toutes. Ce qui explique que des gens ne répondent pas à certains antidépresseurs, parce que donc la plupart des antidépresseurs augmentent le taux de sérotonine dans le cerveau. Or, la sérotonine, il y en a 95% qui est synthétisée au niveau de l'intestin. Et la grande question du moment, c'est est-ce que la sérotonine de l'intestin va influencer aussi le cerveau? Et ça, c'est pas encore tranché. Il y a des chercheurs qui y croient et qui l'affirment dans des modèles animaux. Par contre, chez l'être humain, en fait, on n'en sait pas grand-chose. Et donc, il n'y a pas que la sérotonine. Hein, il y a la noradrénaline aussi dans la dépression, la dopamine aussi. Mmh. Et donc, parfois, il n'y a aucun de ces neurotransmetteurs qui est perturbé, mais il y a une inflammation et qui va entraîner de la dépression aussi par d'autres mécanismes. Inflammatoire.
Alors quasiment tous les antidépresseurs ciblent les déficits en sérotonine, mais peu de traitements reposent sur la source des déficits en sérotonine.
Oui, tout à fait. En fait, il y a le tryptophane qui est un précurseur de sérotonine et on n'a toujours pas de preuves scientifiques de l'efficacité de la supplémentation en tryptophane. Ça, c'est une question qui m'est beaucoup posée par des patients. Est-ce que ça sert à quelque chose de prendre des compléments de tryptophane? Alors, ça sert à quelque chose de prendre des protéines, hein, et on trouve du tryptophane dans beaucoup d'aliments riches en protéines. Par contre, j'ai regardé récemment la littérature et en fait, ce qu'on montre, c'est qu'il y a une amélioration des symptômes après la prise de tryptophane. Il n'y a pas de groupe contrôle dans les études, donc on ne peut pas affirmer scientifiquement que c'est efficace.
Docteur Lacronière.
Oui, et puis alors c'est vrai que le tryptophane, c'est l'acide aminé essentiel à la base de la fabrication de la sérotonine, mais il y a aussi, vous le citiez, la dopamine, qu'on va fabriquer à partir d'un autre acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Et alors quand on mange des protéines, eh bien on peut avoir et du tryptophane et de la tyrosine. Et le problème, c'est que si la tyrosine gagne, c'est pas un problème, mais on va fabriquer plus de dopamine. Donc si par exemple on a des troubles du sommeil qu'on fabrique la dopamine le soir, on va moins bien dormir, alors qu'on voudrait fabriquer plutôt de la sérotonine. Donc ce qu'on va conseiller, c'est aussi, parce que le tryptophane va mieux passer à travers la barrière intestinale s'il est accompagné de sucres qu'on appelait avant les sucres lents, donc de manger des pâtes le soir, pâtes et chocolat.
Le tryptophane, on le retrouve notamment dans les produits laitiers, hein.
Oui, en fait, dans beaucoup de produits protéinés, en fait, je rejoins complètement Catherine sur le fait que il faut privilégier les protéines en début de journée et plutôt les féculents et les sucres lents le soir, à la fois pour éviter une faim qui pourrait réveiller pendant la nuit, mais aussi des protéines qui vont exciter avant le sommeil.
Alors Guillaume Font, des études ont montré que les patients dépressifs présentaient des microbiotes moins riches et moins diversifiés que les personnes en bonne santé mentale.
Oui, les études sont édifiantes là-dessus, c'est qu'à chaque fois qu'on compare des patients dépressifs et non dépressifs, on trouve toujours des différences dans le microbiote. Par contre, c'est pas tout le temps les mêmes. Donc du coup, on s'arrache un peu les cheveux parce qu'on nous demande, alors c'est quoi la bactérie de la dépression? C'est laquelle qu'il faut faire monter? Quel est le probiotique qu'il faut prendre? Et ça, on n'a pas de réponse satisfaisante à ça. Alors par contre, ce qui est important comme message, c'est que les probiotiques ont prouvé leur efficacité dans le traitement de la dépression. Un probiotique, c'est une bactérie, alors initialement qui est censée être vivante. Dans les études, elles sont vivantes. Par contre, dans les formes qu'on trouve en parapharmacie, c'est souvent des postbiotiques, c'est-à-dire des bactéries mortes. Et en fait, celles-ci, elles n'ont pas été étudiées scientifiquement. Et donc, les probiotiques vivants, ça coûte très cher. Donc, je le propose pas à tous les patients. Par contre, quand il y a des points d'appel autour de l'intestin, ça vaut vraiment le coup de tester le traitement par probiotique, parce que ça a été démontré dans plusieurs méta-analyses que c'est efficace pour améliorer les symptômes de dépression.
Les probiotiques qu'on peut retrouver dans les yaourts, dans les laits fermentés, dans le kéfir.
Et le problème de ces probiotiques, qui sont très importants et que je recommande de consommer, c'est qu'en fait, beaucoup vont être décapés par l'acidité de l'estomac. Puis en plus, il peut y avoir des personnes qui ont des problèmes d'acidité de l'estomac, ce qui va aussi modifier le taux de probiotiques qui vont passer dans l'intestin.
Donc on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Les probiotiques vont se nourrir de fibres qu'on appelle des prébiotiques. Et on en revient à votre artichaut, votre ail. Voilà, donc finalement, ce qui est, c'est ce qu'on devrait manger pour améliorer son microbiote. Maintenant, est-ce qu'on le fait au moment X ? C'est une autre histoire.
À quoi servent exactement les prébiotiques ?
Ils vont nourrir ces probiotiques, ces bactéries. Ce sont des fibres qui, comme l'inuline de l'artichaut, par exemple, qui vont permettre à ces probiotiques d'être plus efficaces, donc, et de donner un microbiote en bonne santé.
Docteur Guillaume Font, l'une des preuves marquantes du rôle du microbiote sur la santé mentale, c'est quand on pratique des transplantations fécales sur des animaux, et des souris en particulier.
Oui,
expliquez-nous.
Alors... Je réponds tout de suite aux auditeurs qui vont nous demander si ils peuvent avoir une transplantation de microbiote. Ça ne se fait pas chez l'être humain. Mmh. En fait, la seule indication actuellement, c'est des colites post-antibiotiques très graves. Et il y a des taux spectaculaires d'amélioration.
Racontez-nous ces expériences.
Et donc, chez l'animal, en fait, quand on fait naître des souris en conditions stériles, ce qu'on ne fait pas avec les êtres humains, bien sûr, on constate qu'elles développent des troubles du comportement qui ressemblent beaucoup à des troubles psychiatriques. Mmh. Donc, elles arrêtent de se laver, elles arrêtent d'interagir avec les autres souris. Certaines même automutile. Et quand on injecte une seule bactérie dans leur intestin, ces troubles disparaissent. Donc cette bactérie colonise l'intestin et les troubles disparaissent complètement. Donc c'est vraiment édifiant et c'est comme ça que la psychonutrition a vu le jour avec ces études qui ont démarré en 2004.
Beaucoup de questions vont dans le même sens. Pourquoi le syndrome de l'intestin irritable est-il associé à une augmentation de l'anxiété et de la dépression ? Vous avez mené une méta-analyse en 2014 dans ce sens. Hein.
C'était la première étude de notre équipe. Hein. C'est comme ça que notre équipe a démarré ces projets de recherche autour du microbiote qui montraient en fait pour la première fois que les personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable, donc c'est des dysfonctions de l'intestin où on ne retrouve pas de lésions au niveau de l'intestin. Donc les hépatogastro-entérologues n'aiment pas beaucoup ce syndrome-là parce que du coup ils ne savent pas comment le traiter et il n'y a pas de marqueur biologique fiable de ce syndrome. Par contre, les symptômes ils sont bien présents et les personnes qui en sont atteintes le savent bien. Il y a deux type, un type avec constipation, un autre avec diarrhée prédominante. Et en fait, ces personnes-là sont plus à risque de faire des troubles anxieux et dépressifs pour tous les mécanismes qu'on a cités en première partie, avec des perturbations du microbiote, des troubles de la digestion, des nutriments, de la perméabilité intestinale, de l'inflammation, etc.
Oui, et on voit en ville, comme à l'hôpital, de plus en plus de consultations de personnes qui voudraient et qui souffrent de ce syndrome de l'intestin irritable qui se traduit par des ballonnements, des douleurs abdominales et comme vous le disiez, des alternances de constipation et ou diarrhée, voire transit normal. Et c'est vrai qu'en changeant l'alimentation, on peut avoir une nette amélioration. Alors on cherche du côté, il faut toujours penser, c'est vrai, à l'intolérance vraie au gluten, mais ce ne sont pas nombreux finalement les personnes qui ont une vraie intolérance au gluten. Il y a plutôt une certaine sensibilité. À ce moment-là, c'est beaucoup moins dangereux hein, que la maladie cœliaque. Mais enfin, le quotidien est très altéré. Et on regardera également du côté des sucres, ces petits sucres fermentissibles qu'on appelle les FODMAPs, c'est l'acronyme hein, pour ces sucres qui arrivent au niveau du côlon et qui fermentent et qui provoquent des ballonnements dont on souffre. Donc en changeant l'alimentation, il y a un réel espoir d'améliorer son bien-être quotidien.
On peut aussi rappeler que ça marche dans les deux sens, que le cerveau peut influencer l'intestin parce que quand le cortisol augmente, l'hormone du stress, ça va augmenter la perméabilité de l'intestin, donc augmenter aussi les troubles inflammatoires liés à l'intestin.
Justement, beaucoup d'auditeurs se demandent pourquoi l'inflammation du microbiote intestinal peut avoir un impact sur le cerveau et plus globalement sur notre humeur. Expliquez-nous le mécanisme.
Donc en fait, au début, donc le microbiote va être perturbé, donc il y a plusieurs populations de bactéries dans le microbiote. C'est un écosystème et d'ailleurs c'est pas les mêmes d'une personne à l'autre, donc on a du mal d'ailleurs à dire ce qu'est un microbiote sain. C'est pour ça que la recherche est autant en difficulté, il y a tellement de variabilité d'une personne à l'autre que c'est compliqué. Au début on pensait qu'il y avait trois types de microbiote et puis maintenant on sait qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et donc il y a certaines bactéries qui vont s'effondrer en fait, alors ça peut être décapé par une gastro-entérite, par une antibiothérapie. Maintenant la plupart des médecins qui prescrivent des antibiotiques prescrivent aussi ensuite des probiotiques ou des levures pour réenrichir la flore intestinale, ce qui est très bien. Et ensuite, donc cette perturbation au niveau du microbiote a perturbé toutes les fonctions qu'on a citées. Donc le nerf vague va plus être stimulé de la même façon, la perméabilité de l'intestin va augmenter, ça va laisser passer tout un tas de choses dans le sang qui vont être inflammatoires, reconnues comme le non-soi, donc le système immunitaire va s'activer. Et ça, au niveau du cerveau, ça va se lier à des récepteurs qui vont entraîner une chute de l'énergie psychique, de la motivation, des troubles du sommeil, de l'anxiété, etc.
Expliquez-nous en quelques mots, Catherine Lacrenière, ce qu'est l'inflammation chronique, l'inflammation à bas grade.
Alors,
expliquez-nous en quelques mots.
Oui, ce n'est pas l'inflammation aiguë quand vous vous rentrez une écharde, vous vous brûlez. Là, c'est un mécanisme vital. En fait, quand le corps est soumis à des agressions répétées, qu'elles soient alimentaires, environnementales ou autres, eh bien, il va y avoir une inflammation qui va s'installer dans les cellules et on la retrouve dans toutes les cellules de l'organisme. Elles sont dans les cellules des artères, elles vont favoriser ce qu'on appelle l'athérosclérose, favorisant les maladies cardiovasculaires. Elles vont être au niveau du pancréas pour favoriser le diabète. Elles vont être au niveau des cellules graisseuses, des adipocytes, pour favoriser l'obésité. Cette inflammation chronique qui est entretenue, qui se pérennise, eh bien, elle va provoquer un dysfonctionnement des organes. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre elle, dans la limite de nos moyens, bien sûr.
Alors, comment protéger au mieux notre microbiote intestinal? On l'a dit, en le nourrissant de bonnes fibres. Quelles sont les meilleures sources de fibres, docteur Guillaume Font?
Alors, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la salade verte. J'en en parlais déjà dans le livre d'avant, et il y a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé parmi mes proches, qui m'ont dit ce que j'ai retenu le plus de ton livre, c'est la salade, de manger une salade par jour. Alors, il y a le proverbe anglais qui dit manger une pomme par jour garde le médecin au loin. Et je pense que la salade, c'est quand même une très bonne source de fibres parce que c'est hypocalorique. Et souvent, en fait, on a une alimentation par ailleurs trop riche, on l'a dit, en sucre et en graisse saturée. Et donc, du coup, ça augmente le bol alimentaire, ça apporte des fibres et des nutriments et ça ralentit aussi la digestion. Donc, ça permet d'avoir faim plus tardivement. Et donc, c'est vraiment une source peu chère et facile à mettre en place dans l'alimentation.
Vous acquiescez?
Ah oui, tout à fait. Excellente idée, puisqu'on a dit qu'il fallait augmenter les fruits et les légumes. Cette salade, elle est extrêmement peu riche en calories. Par contre, elle est très riche en fibres, en antioxydants. Et puis, elle sera moins calorique que l'artichaut, qui n'est moins un très bon aliment, mais qui va apporter un petit peu plus de calories. Alors attention, ne diabolisons aucun aliment. Hein.
Ça permet aussi, dans la sauce de salade, de mettre des huiles riches en oméga-3 aussi, par exemple.
Huile de colza, par exemple. Et huile d'olive.
Et des herbes et des épices.
Exactement. Une méta-analyse publiée en 2014 montre qu'il existe un risque réduit de dépression quand on suit un certain type d'alimentation, avec plus de fruits, de poissons, de graines entières. Quel est le régime alimentaire idéal pour notre microbiote et notre morale? Eh bien, je vous le donne en mille, c'est le régime
méditerranéen, sans surprise.
Que nous dit la science, la recherche scientifique sur l'efficacité de ce régime méditerranéen sur la prévention de la dépression, des déprimes?
Alors, pour nos auditeurs, je précise que c'est très proche du régime flexitarien aussi, parce qu'on me pose la question. Donc, les trois régimes en tête pour la santé mentale, c'est méditerranéen, celui qu'on appelle le DASH, c'est le régime anti-hypertenseur qui est très proche.
Réduit en sel.
Voilà, c'est ça.
Et flexitarien, c'est quand on mange de la viande une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ouais.
Et le point commun de ces trois régimes, c'est qu'ils sont très riches en légumes et en fruits, comme on l'a dit. Donc,
et vous écrivez, Guillaume Font, que cette alimentation méditerranéenne, eh bien, c'est un véritable canadair pour les intestins qui brûlent à bas bruit.
Exactement. En fait, c'est une alimentation anti-inflammatoire. Et donc, il y a eu aussi des chercheurs qui ont développé des scores d'inflammation, alors qu'ils ne sont pas disponibles. Hein. C'est un questionnaire qui n'a pas été publié, donc ils gardent jalousement leur questionnaire pour l'instant. Mais ils ont démontré que plus l'alimentation était anti-inflammatoire et moins il y avait de risques de dépression.
Rappelez-nous la base de ce régime méditerranéen que vous affectionnez, docteur Lacrenière.
Tout à fait, c'est en effet un régime anti-inflammatoire. C'est une alimentation qui est très riche en fruits, en légumes, en céréales entières, complètes. Il y a également beaucoup d'herbes, beaucoup d'épices et il y a un petit peu de protéines. Il y a des poissons. On disait, c'est important de voir, vous me contredirez ou non, mais que quand on est complètement végétarien et qu'on ne mange pas du tout de poisson, on a plus de risques d'être déprimé que si on mange du poisson. Et puis je pense que en Crète, autour de la Méditerranée, on a vraiment une alimentation qui est non seulement bonne pour la santé, mais aussi tellement ludique et agréable.
N'oublions pas les légumineuses.
Bien entendu.
Les fromages frais de brebis.
Exactement.
Ou de chèvre, Guillaume Font.
Donc je confirme tout ça. Pour la question du poisson, c'est une question très compliquée parce que dans les études, en fait, ce qui est le point commun entre toutes les études, c'est les légumes et les fruits. Voilà, c'est vraiment les deux choses. Je parle de l'impact sur la santé mentale parce qu'il y a après des impacts positifs sur le reste de la santé de beaucoup de choses. Et après, pour les poissons, c'est comme on l'a dit, c'est cette question du mercure qui est très compliquée et aussi de la surpêche et de la qualité des poissons, poissons sauvages versus poissons d'élevage. Donc il y a aussi la question environnementale. Est-ce que c'est soutenable aussi que tout le monde consomme du poisson.
Il y a également, sur cette alimentation méditerranéenne, il y a la question du mode de préparation qui est très importante.
Tout à fait, parce que s'il y a une cuisson, il y a perte de beaucoup d'oméga-3 et si le poisson est surgelé, il n'y a plus d'oméga-3 au bout de 6 mois de congélation et la plupart des poissons ont bien plus que 6 mois de congélation.
Question de Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle.
Oui, pour rester sur le côté alimentation et le régime alimentaire, vous évoquez aussi dans votre ouvrage, Guillaume Faux, la question des jeûnes et notamment le jeûne intermittent, le fait de sauter le petit déjeuner par exemple, que vous réhabilitez, je ne sais pas, en tout cas, contre lequel vous ne vous opposez pas.
Tout à fait, alors ça c'est un grand débat, le jeûne je ne sais pas pourquoi fait très peur en fait. Alors je pense que c'est venu du fait qu'il y a eu des recommandations de jeûne dans le cancer et que ça a conduit à des dérives d'arrêter les chimiothérapies, des choses comme ça, et donc ça c'est très grave et donc c'est pas du tout recommandé. Par contre, on a publié une méta-analyse récemment, donc en fin d'année dernière, qui démontre que les études qui comparent les personnes qui jeûnent, donc avec différentes type de jeûne, et celui qui semble le plus facile, c'est le jeûne intermittent, parce que les effets indésirables du jeûne apparaissent au-delà de 24 heures de jeûne. Donc en fait, si on jeûne 12 à 16 heures par jour, et la façon la plus simple, c'est de supprimer le petit déjeuner, donc déjeuner, ça veut dire sortir du jeûne, on est déjà en état de jeûne en se levant le matin. La définition du jeûne, c'est une absence d'apport de nourriture pendant 6 heures. Donc du coup, quand on se lève le matin, la plupart d'entre nous sommes déjà en jeûne. Il s'agit de prolonger cet état de jeûne jusqu'à 12 à 16 heures après la dernière prise, donc ça peut être 20 heures le soir, 8 heures le matin, donc ça c'est facile à faire, mais de prolonger parfois jusqu'à midi ou 13 heures. Et ça, ça permet de mettre l'intestin au repos. Et donc toute l'immunité qui va être liée, en fait, 70% du système immunitaire consiste à nous protéger des attaques de l'alimentation. Donc si on n'a pas cet apport alimentaire, il y a une hypothèse qui suggère que le système immunitaire, eh bien, il peut aller nettoyer tout le reste, comme par exemple les sinus, parce qu'il y a beaucoup de sources respiratoires d'infections, notamment en hiver, avec le Covid aussi par exemple. Et donc l'autre hypothèse du mécanisme d'action, c'est que c'est plus facile de diminuer son apport calorique quand on fait du jeûne intermittent, c'est-à-dire en supprimant un repas, et qu'il y a beaucoup trop d'apport de calories pour la plupart d'entre nous, et que ça permet aussi de perdre du poids.
Un mot sur l'hydratation.
Donc l'hydratation, en fait, ce qui m'a frappé quand j'ai regardé les études, c'est qu'il n'y a pas de preuve d'efficacité des eaux minérales ou de sources, alors qu'on en parle beaucoup. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efficacité tout court, ça veut juste dire que ça n'a pas été étudié scientifiquement. Et puis par rapport à un côté environnemental, moi personnellement, je ne recommande pas l'eau embouteillée, parce que c'est quand même des coûts énergétiques et de plastique très importants, et on n'a pas de preuve scientifique d'efficacité. Donc, et par ailleurs, l'eau du robinet en France est de très bonne qualité.
C'est juste que ne pas suffisamment s'hydrater a un impact sur le fonctionnement de notre cerveau, on sous-estime.
En fait, beaucoup de personnes n'absorbent pas assez d'eau, et en particulier les personnes en surpoids, c'est démontré que quand on a un surpoids, on s'hydrate moins, et ça va impacter l'énergie, la motivation, perturber le sommeil également.
10h44, il est l'heure de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Christophe André.
Dans l'histoire de l'humanité, 1751, c'est une année ordinaire. Sauf qu'elle voit tout de même la publication d'un petit ouvrage réjouissant, L'art de péter, un essai théorico-physique et méthodique à l'usage des personnes constipées, des personnes graves et austères, des dames mélancoliques et de tous ceux qui restent esclaves des préjugés. Son auteur, Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaud, n'est pas passé à la postérité, mais il était pourtant le représentant d'une longue lignée d'écrivains ayant célébré depuis l'Antiquité la sonorisation de notre digestion. Ainsi, avant lui, Rabelais avait imaginé Pantagruel lisant un ouvrage intitulé « Ars honeste petendi in societate ». Et après lui, Serge Gainsbourg avait publié un roman de la même eau, Evgeny Sokolov, pas vraiment passé à la postérité lui non plus, je parle du roman, pas de son auteur, mais dont voici un extrait de la mise en musique par Gainsbourg lui-même.
C'est Gainsbourg, ça ?
Oui. Bon, ça va s'améliorer, donc je ne sais pas. Bon. Bon, alors tout ça, c'était le regard du monde d'avant sur ce qui se passe dans nos intestins. Un regard tantôt paillard et joyeux, avec les dissertations potaches et rigolardes sur nos pets et nos crottes, et tantôt condescendant et invisibilisant. On ne parle pas de tout ce qui conduit au caca parce que ce n'est pas chic. C'était très injuste, car nos intestins sont des organes admirables et intelligents, beaucoup moins considérés que notre cerveau ou notre cœur, mais à tort. Heureusement, dans le monde d'aujourd'hui et de demain, la médecine et la recherche sont en train de réhabiliter à toute vitesse notre tube digestif, en dévoilant notamment l'univers merveilleux, je pèse mes mots, du microbiote digestif. Vous savez, ce bon kilo de bactéries bienveillantes installées dans nos intestins et qui, dans l'ombre, travaille pour nous et notre santé, nuit et jour.
Merci Christophe, hein, dans la tête toute la journée là.
Mais oui, nos intestins ne sont pas seulement un long tube, 6 mètres tout de même, servant à absorber nos aliments. Ils sont un laboratoire complexe où se déroulent des phénomènes biologiques qui vont peser très lourd sur notre immunité, notre équilibre mental, bref, sur l'ensemble de notre santé. Et ce, grâce à tout un tas de petites cellules immigrées. Car j'ai souvent l'impression que notre corps pourrait être comparé à une société humaine ou à un pays dans lesquels se mélangent tout un tas de cellules ou de citoyens, certaines et certains nés sur place, d'autres venus d'ailleurs. De leur interdépendance et de leurs efforts mutuels de reconnaissance des uns par les autres, de leur désir de vivre en bonne intelligence, va naître la bonne santé, celle du corps. Ou peut-être celle de la société. Bon, je m'égare, je ne suis pas sociologue, mais médecin. Alors, je reviens à ce que je connais à peu près. Cette reconnaissance du rôle du microbiote témoigne d'une évolution intelligente de notre médecine moderne, de son attachement à ne pas seulement s'occuper de soigner les maladies, mais aussi de prévenir, de faciliter la santé, de restaurer les bons équilibres intérieurs de notre corps, ce qui passe par un mode de vie sain, respectueux des besoins de ce même corps, besoin d'une nourriture adaptée, d'activité physique, d'environnement non pollués, etc. Si nous lui offrons tout ça, notre organisme sera bien plus à même de s'auto-équilibrer et de s'auto-réparer et de nous aider à accéder à plus de bonheur et plus de sagesse. Oui, oui, une part de nos capacités à la sagesse, cette lucidité bienveillante et apaisée sur la vie, le monde et nous-mêmes, passe par notre équilibre microbiotique. C'est en tout cas ce que pensait Montaigne, qui s'intéressait beaucoup au fonctionnement de son corps et de sa digestion et qui écrivait dans ses essais « Nous n'avons de sagesse que de nos organes » ou « que dans le silence ou le bonheur de nos organes », tube digestif compris.
Docteur Guillaume Font, je n'aurai pas le prix Albert Londres avec la question qui suit. Est-ce qu'il y a des P qui signalent un microbiote intestinal en bonne santé? Marie-Laure Sonnenschein lève les yeux au ciel, mais c'est une question légitime.
Alors, je ne suis pas allé regarder les études sur les odeurs de paix et les prédictifs de la dépression, voilà. Mais c'est peut-être une idée de projet de recherche. Voilà. Je vais y réfléchir.
Et vous désolé, j'insiste un peu, mais moi, j'avais le sentiment pendant très longtemps que les gens évitaient les légumineuses à cause de sa légumineuse, donc les faillots, les pois chiches, les fèves, etc., à cause de ce problème d'épée, ce qui est une erreur parce que les légumineuses, c'est un aliment merveilleux aussi.
Souvent, les personnes qui ont des inconforts avec les légumineuses sont celles qui n'en consomment pas assez, en fait. C'est-à-dire que le microbiote n'est pas habitué à avoir cet apport de fibres. Et c'est vrai que c'est une vraie question, l'intolérance aux légumineuses, qui fait que beaucoup de personnes n'en consomment pas et que ça peut être problématique.
Docteur Lacronière ?
Oui, alors pour faire la jonction, ce qu'on pourrait, c'est utiliser des légumineuses qui sont un petit peu mieux tolérées. Je pensais par exemple aux lentilles corail qui n'ont pas cette petite pellicule. On peut aussi penser à un équivalent légumineux comme le quinoa. Qu'on soit adulte ou enfant, il n'est jamais trop tard pour intégrer de nouveaux aliments dans son alimentation.
Les choses vues de Christophe André à podcaster sur le site et l'appli France Inter, et vous pouvez lire avec profit L'art de péter de Pierre-Thomas Nicolas Hurtaud. C'est publié en poche à la petite bibliothèque Payot. Dans un instant, comment concilier alimentation antidéprime et pouvoir d'achat en berne? Ce sera juste après avoir écouté Franz Ferdinand qui interprète Curious. Franz Ferdinand interprétait Curious.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Et ce matin, comment un certain type d'alimentation peut contribuer à notre bonheur, à notre bonne humeur? Vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000. Alors, docteur Guillaume Font, dans votre livre, vous recommandez de nous supplémenter en oméga-3 pour améliorer notre morale. Pourquoi se supplémenter alors que nous pouvons manger du saumon, des sardines, du hareng, des poissons gras riches en oméga-3? Rappelez-nous d'abord les grandes fonctions des oméga-3 et pourquoi sont-ils bénéfiques à notre équilibre émotionnel.
Alors c'est quelque chose qu'on peut déplorer, c'est que dans notre alimentation moderne, contrairement à une idée reçue, l'alimentation n'apporte pas forcément tout ce dont on a besoin, ou en tout cas c'est très compliqué d'atteindre les objectifs. Dans le cadre des oméga-3, c'est des acides gras essentiels, ça veut dire que le corps ne peut pas les synthétiser, on est obligé de les avoir par l'alimentation. Et l'apport recommandé, il est de 2 grammes par jour. Ça, c'est l'autorité de santé européenne qui a déterminé ça en regardant les apports des personnes en bonne santé. Alors, quand on est en bonne santé, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à risque de développer une maladie. Et je rappelle que dans la population française, il y a 7% des Français qui sont en état de dépression à un instant T et 20%, 1 sur 5, qui vont faire une dépression au cours de leur vie.
Donc, il semblerait que les sujets dépressifs ont plus de carences en oméga-3 que la moyenne de la population générale.
On a regardé des études, on a comparé les taux sanguins des oméga-3. Alors, ça se fait pas en pratique courante, donc je le dis pour les auditeurs, ça sert à rien de demander à votre médecin un dosage d'oméga-3, ça se pratique que dans quelques laboratoires. Nous, on n'en a pas, par exemple, de dosage à la PHM où je travaille. Et donc, les études de recherche ont montré effectivement qu'il y a moins d'oméga-3 dans le sang des personnes dépressives que celles qui ne le sont pas. Et donc, les Français, en moyenne, ont un apport, on a dit 250 mg, c'est 10 fois moins que quasiment que ce qu'il faudrait. Et donc, certes, on peut en trouver dans des poissons gras, on a expliqué pourquoi on pouvait pas consommer du poisson tous les jours, que c'était même nocif vis-à-vis du mercure. C'est pas soutenable d'un point de vue de l'environnement non plus. Donc on peut en trouver dans les végétaux, mais dans les végétaux, c'est des formes d'oméga-3 qui vont être converties dans le corps, mais on sait pas à quel pourcentage ça va être converti. Et donc, du coup, c'est très compliqué de savoir, dans les graines de chia, par exemple, dans les huiles, on peut en trouver.
Les huiles de colza, voilà. Les graines de lin.
Exactement. Et en fait, en pratique, c'est quand même à la fin très compliqué. Le poisson, ça peut coûter très cher aussi. Et donc, à la fin, ce qui est le plus simple, c'est quand même de prendre des compléments alimentaires.
Et pourquoi est-ce que les oméga-3 ont une influence sur notre santé mentale, sur nos états dépressifs, nos déprimes?
Donc il y a plusieurs oméga-3, il y a l'EPA et le DHA, donc c'est l'EPA dans la dépression qui a montré le plus d'efficacité. Il faut en avoir plus d'un gramme par jour, je le dis pour les auditeurs, parce qu'on me pose beaucoup la question du dosage dans la dépression, hein, je parle du traitement curatif de la dépression, c'est les doses à plus d'un gramme d'EPA par jour qui ont montré de l'efficacité, ça a un effet anti-inflammatoire, et puis c'est un fluidifiant membranaire des neurones aussi qui va permettre au cerveau de mieux fonctionner.
Docteur Catherine Lacronière.
Alors si on revient sur les poissons dont on disait en effet que malheureusement ils sont souvent contaminés, que ce soit par le mercure ou autre, on va déjà choisir certains poissons. On va choisir des poissons de début de chaîne, plutôt du maquereau et des sardines. En plus, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Plutôt qu'un thon qui aura vécu très longtemps dans des eaux contaminées. Et puis, on essaiera aussi d'augmenter ses apports en oméga-3, vous me le disiez, avec des graines, mais aussi les oléagineux. Mais on sera très loin des 2 grammes qui sont nécessaires.
Comment concilier l'alimentation anti-déprime que vous préconisez et un pouvoir d'achat en berne? Bien manger coûte cher.
Alors, les bonnes nouvelles, c'est qu'on propose de réduire des aliments qui coûtent très cher, notamment la viande et du coup le poisson, puisque donc on passe à une portion de poisson gras par semaine et de poisson blanc par semaine. Les légumineuses ne coûtent pas cher. Les légumes verts, en fait, alors ce qui est recommandé, c'est de choisir des légumes de saison et en local avec des circuits courts. Donc, si on soutient, par exemple, si on est inscrit dans une AMAP, ça coûte cher parce qu'on soutient un type d'agriculteur particulier. Les légumes bio coûtent plus cher, mais c'est un prix à payer pour une alimentation de qualité. Le budget, la part du budget de l'alimentation a diminué ces 40 dernières années dans le budget des Français. Et donc, la question, c'est est-ce que finalement, on n'a pas oublié certaines priorités, parce que l'alimentation, c'est quand même à la base de notre santé.
Il faut coupler évidemment cette alimentation antidéprime avec de l'exercice physique régulier.
Oui, je rappelle qu'il a été démontré dans une méta-analyse très importante que l'activité physique, au même titre que l'alimentation, prévient du risque de dépression. Donc les deux sont à coupler, évidemment.
Quelle est votre routine, en quelques mots, quotidienne, pour justement intégrer cette alimentation antidéprime?
Alors, ce qui me différencie le plus, je pense que c'est la supplémentation en oméga 3. Je prends des oméga 3 tous les jours. Je convainc au moins la moitié de mes étudiants à chaque fois que je fais un cours de commencer les oméga 3.
Et vous n'avez pas d'intérêt dans une entreprise?
Non, j'ai pas d'action, j'ai pas de stock options. Voilà, j'ai pas de conflit d'intérêt. Et donc après, donc en termes de
salade.
Alors la fameuse salade, oui. Donc d'ailleurs avec Dominique de Saint-Mars, on avait fait un Lily sur la salade Guigui qu'elle avait appelée, voilà, comme ça. C'était donc un livre pour enfants, en fait, et Max et Lily. Et après, donc c'est tout ce qu'on a dit, donc flexitarien, légumineuse, beaucoup de légumes verts. Et donc en l'occurrence, je me suis aussi inscrit dans une AMAP pour soutenir une agriculture durable.
Merci beaucoup Guillaume Font, docteur Guillaume Font, avec Christophe André, on est d'accord, hein, ce livre est absolument
c'est le meilleur.
Formidable, bien manger, sujet, bien manger pour ne plus déprimer, prendre soin de son intestin pour prendre soin de son cerveau. C'est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup docteur Catherine Lacrenière, je recommande votre livre consacré à l'inflammation. Rappelez le titre.
Prévenir et soigner l'inflammation ou l'alimentation anti-inflammatoire chez Albin Michel.
Et on se retrouve, merci au Tic-Tac du mardi, hein, que Laure et Christophe. Demain, nous espérons percer les secrets des génies. Écoutez, ça sera passionnant.